Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Olivier Landrevy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de CAFPiH et nous allons discuter ensemble de la hausse des taux qui serait peut-être plus rapide que prévu, selon Christine Lagarde, selon la BCE. Donc Christine Lagarde qui a laissé entendre que la première augmentation des taux pourrait avoir lieu dès le mois de juillet prochain. À quoi faut-il s'attendre ?
Alors, ce que Christine Lagarde a annoncé, c'est d'abord la fin du programme de rachat d'actifs de la BCE qui interviendra courant juin, donc un petit peu plus tôt que ce qui était anticipé. Et elle a effectivement laissé entendre qu'ensuite elle enchaînerait très rapidement, donc on pense début juillet, sur une hausse du taux directeur de la BCE. Et les analystes financiers anticipent maintenant probablement 3 hausses de taux successives de la Banque Centrale Européenne entre début juillet et la fin de l'année, de 0,25 à chaque fois, donc pour un total de 0,75, ce qui veut dire qu'on repasserait sur des taux positifs pour la BCE, ce qui n'était plus arrivé depuis 2016, si ma mémoire est bonne.
Donc, oui,
évidemment, ça a un impact pour le marché du crédit immobilier. Alors d'abord, c'est un impact sur les taux longs. On voit que l'OAT 10 ans a réagi, elle est en ce moment autour de 1,45. Donc on est plus de 1 point au-dessus des niveaux du début de l'année. Mmh. Et ça a un impact progressivement aussi sur les taux de crédit pratiqués par les banques.
Mais voilà. Oui. Oui, sur les taux du coup de crédit immobilier et donc bien sûr sur tout le marché en France. À quoi doit-on s'attendre du coup? Qui seront les premiers impactés sur le marché?
Alors, la première chose qui se passe, et ça on le voit déjà depuis quelques semaines, c'est une problématique qui est liée au taux de l'usure.
Oui.
Le taux de l'usure, c'est donc le taux au-dessus duquel les banques n'ont pas le droit de prêter.
De prêter d'argent.
Le calcul de ce taux de l'usure, induit un retard d'environ 9 mois entre la réalité des décisions qui sont prises par les banques et les répercussions sur le taux de l'usure pour le trimestre suivant.
Oui, il y a un décalage de 9 mois, en fait.
C'est ça, entre la réalité et le calcul du taux de l'usure. Et du coup, on reste sur un taux de l'usure qui est très bas, qui est en réalité le plus bas qu'on ait jamais connu aujourd'hui. Et ça va rester le cas vraisemblablement jusqu'à fin septembre, alors que les taux pratiqués par les banques, eux, remontent. Et donc ça a une conséquence très concrète, c'est qu'il y a un certain nombre de projets maintenant qui butent sur le taux de l'usure et que les banques, du coup, ne peuvent pas financer parce qu'il faudrait pratiquer des taux qui vont au-delà de ce plafond. Donc ça va toucher en particulier des clients qui ont des coûts d'assurance emprunteur élevés, parce que le coût de l'assurance emprunteur entre dans le calcul du TAEV et donc la réglementation du taux de l'usure. Et donc les personnes qui vont être pénalisées vont être des emprunteurs un peu plus âgés, peut-être au-delà de 45-50 ans,
malades.
Des emprunteurs qui ont des problématiques de santé, qui fument, il y a aussi ce facteur-là, qui ont des maladies chroniques ou des choses de ce type, voilà.
Et
donc ça, c'est la problématique du taux de l'usure qui touche déjà beaucoup de monde. Et puis ensuite, il y a un deuxième public qui est pénalisé, qui sont les primo-accédants à revenus modestes, notamment enfin les jeunes ménages qui commencent dans la vie.
Oui, parce que forcément, début de carrière, pas de revenus élevés, peu de capital. Du coup, forcément, oui, c'est eux les plus impactés.
C'est ça. Il y a une nouvelle réglementation alors qui est en place depuis déjà un petit peu de temps, qui est la réglementation du Haut Conseil à la stabilité financière qui rend les choses difficiles pour les banques quand elles souhaitent financer des projets où le taux d'endettement, donc les mensualités de remboursement du crédit ramenées aux revenus du ménage dépasse 35%. Donc ce chiffre de 35% est vraiment devenu une norme. Alors pour des ménages qui ont des niveaux de revenus confortables et de l'épargne,
finalement, avec l'apport,
ils arrivent à compenser cette perte de pouvoir d'achat, disons, immobilier, en débloquant de l'épargne et en compensant avec l'apport. On voit d'ailleurs hein, que les niveaux d'apport ont beaucoup monté. On est maintenant à 20% en moyenne sur les projets qu'on finance. Vraiment beaucoup. Mais évidemment, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des revenus plus modestes ou qui commencent dans la vie et qui n'ont pas ces réserves d'épargne et qui, elles, du coup, doivent abandonner leur projet. Donc, cette remontée des taux va accentuer ce phénomène. On commence à le voir et ça risque de s'accélérer pour le reste de l'année.
Dernière question, j'imagine acheter sans apport pour des primo-accédants à faible revenu d'ici 1-2 ans, ce sera plus possible du tout.
Ça n'est déjà, c'est déjà plus possible. Plus possible,
hein. Il n'y a pas d'exception en ce moment même.
Il peut y avoir des exceptions pour des profils vraiment à très fort potentiel dont la banque est absolument convaincue que le niveau de revenu va fortement augmenter dans les années qui viennent. Hein, vous voyez, si vous êtes interne en médecine et destiné à une magnifique carrière de chirurgien, peut-être que votre banque acceptera de faire une exception, mais ça devient très rare.
Merci beaucoup Olivier Landrevi.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.